Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition matinale du 9 mai 2014 en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Avec vous, Nathalie Barge, en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Rendez-nous nos filles. La campagne Bring Back Our Girls prend une ampleur inédite sur la toile où de plus en plus de personnes se mobilisent contre l'enlèvement des Nigérianes par Boko Haram. Michelle Obama, première dame des États-Unis, s'est jointe à l'initiative, entre autres personnalités de ce monde.
Nous avons maintenant le sentiment de ne pas être seuls dans cette bataille. Les femmes ont maintenant une voix et notre voix a été entendue.
Ona Ali, une mère de famille nigériane. Au Niger, sous la fronde des députés de la majorité, Ama Amadou se cramponne à son siège de président du Parlement.
Je sais que par la foule, on ne peut pas me détruire. Vous m'avez enlevé ma sécurité. Vous m'avez enlevé mon garde-corps. Donc je n'ai aucune défense.
Le président sud-soudanais Salva Kiir et le rebelle Riek Machar entament des pourparlers aujourd'hui à Addis Abeba. Et l'OMS et l'UNICEF réclament l'accès à l'eau potable pour tous. Ce sera notre dernier dossier magazine avant les sports avec Bagassi Koura et la musique avec Roger Muntou. Mais avant tout, le journal.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que les États-Unis feront tout leur possible pour libérer les 276 écolières enlevées par le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Hier à Washington, M. Kerry a indiqué qu'une équipe de conseillers militaires américains est arrivée au Nigeria pour soutenir le gouvernement au plan des communications, de la logistique et du renseignement. L'équipe interagence va travailler de concert avec le gouvernement du président Goodluck Jonathan pour faire tout ce que nous pouvons pour rendre ces filles à leur famille et à leur communauté, a dit M. Kerry, avant d'ajouter « Nous ferons également tout notre possible pour contrer la menace de Boko Haram ».
Une première mission de la Cour pénale internationale est en Centrafrique dans le cadre d'une enquête préliminaire sur les crimes commis dans le pays depuis 2012. Des précisions avec Félix Yepassi Zembo.
Des crimes graves ont été commis depuis 2012 en Centrafrique, selon le chef de la mission de la CPI à Bangui. Amadiba a expliqué que depuis 2002, des enquêtes ont été menées et se poursuivent. Il a ajouté que malheureusement, depuis 2012, des crimes graves et des atrocités sans pareil ont eu lieu sur le territoire centrafricain. Une enquête préliminaire porte sur la période entre mars 2013 et janvier 2014, pendant laquelle les combattants de la Séléka ont semé la terreur dans les quartiers chrétiens. Les représailles des miliciens anti-Balaka contre les musulmans ont été qualifiées par l'ONU de pré-génocide. Pour rappel, en 2002, le MLC de Jean-Pierre Bemba avait soutenu le président Ange-Félix Patassé face à la rébellion de François Bozizé. Jean-Pierre Bemba est actuellement détenu à La Haye. L'ex-président Bozizé, qui avait finalement pris le pouvoir en 2003, sera lui-même renversé en 2013 par la coalition Séléka.
Le chef rebelle du Soudan du Sud, Riek Machar, est arrivé hier soir à Addis Abeba pour les premiers pourparlers directs avec le président sud-soudanais Salva Kiir depuis que les combats et la violence ethnique ont éclaté en décembre dernier. M. Kiir est attendu aujourd'hui dans la capitale éthiopienne. Les négociations entre les délégations des rebelles et du gouvernement ont traîné pendant plusieurs mois sans vraiment progresser. Le président Salva Kiir a accepté de participer aux pourparlers avec son ancien vice-président après sa rencontre avec le secrétaire d'État américain John Kerry au Soudan du Sud la semaine dernière. Par ailleurs, selon un rapport publié jeudi par l'ONU, il y a des motifs raisonnables de croire que les deux parties ont commis des violations des droits de l'homme et que des crimes contre l'humanité ont été perpétrés au Soudan du Sud.
Les Sud-Africains ont voté massivement pour l'ANC au pouvoir aux élections législatives de mercredi, selon des résultats partiels portant sur 75% des bureaux de vote hier soir. L'ANC menait avec 62,3% des voix, en léger recul par rapport à son score aux législatives de 2009.
Des hommes armés ont abattu le chef du renseignement pour l'est de la Libye. Selon les autorités, Ibrahim Senoussi a été tué hier alors qu'il se rendait en voiture à Benghazi. Le gouvernement central de la Libye peine à contrôler les groupes armés et les milices composées d'anciens rebelles qui ont aidé à renverser Muammar Kadhafi en 2011. La situation reste particulièrement instable à Benghazi où les forces de sécurité ont subi un attentat meurtrier cette semaine. De nombreux pays ont fermé leur consulat dans cette ville après que des militants islamistes ont tué l'ambassadeur des États-Unis et trois autres Américains en 2012.
Au Mozambique, le chef de la RENAMO, Afonso Dhlakama, s'est inscrit sur les listes électorales, ce qui lui permet légalement de devenir candidat à la présidentielle en octobre prochain. Lionel Gaïma.
Dhlakama vivait dans les montagnes depuis plus d'un an pour, selon lui, échapper à la persécution du gouvernement. Il est sorti de la clandestinité pour s'inscrire à Vunduzi, dans le centre du pays, où presque toute l'année dernière, les combattants de la RENAMO ont mené une guérilla sans merci contre les forces de sécurité mozambicaines. Maintenant, M. Dhlakama dit être intéressé à maintenir la paix dans son pays. L'ancien chef rebelle a assuré que ce sera au congrès de la RENAMO de décider qui sera porte-drapeau à l'élection présidentielle prévue le 15 octobre. Le président Armando Guebuza ne peut pas briguer un autre mandat, mais un de ses alliés se présente pour le Frelimo. Ce parti qui dirige le pays depuis l'indépendance en 1975 a remporté toutes les élections depuis la fin de la sanglante guerre civile au Mozambique.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé hier une médaille Capitaine Bai Diang afin d'honorer les membres de l'ONU qui ont bravé des dangers extrêmes en s'acquittant de leur mission. Des détails avec Jean-Roger Bion.
La résolution proposée par la Jordanie a été adoptée à l'unanimité. Le Conseil rappelle avec une profonde reconnaissance que le capitaine sénégalais Mbaye Diagne a sauvé sans armes et face à un danger extrême la vie de centaines, voire d'un millier de Rwandais pendant le génocide de 1994. Le Conseil regrette profondément qu'après son décès, la famille du capitaine Mbaye Diagne n'ait jamais reçu de remerciements de la part du secrétariat de l'ONU. Le capitaine Diagne était membre de l'opération onusienne de maintien de la paix au Rwanda. Il a sauvé plusieurs centaines de Tutsis en les aidant à franchir les barrages routiers tenus par les génocidaires. Il a été tué au cours d'une mission de sauvetage au Rwanda le 31 mai 1994. Il était âgé de 36 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a ordonné à l'Ukraine, dépendante en énergie, de payer à l'avance toutes les futures livraisons de gaz naturel. Tandis que Kiev peine à maintenir la stabilité économique et politique, le ministère russe de l'énergie affirme que l'Ukraine a dépassé le délai mercredi pour rembourser une dette en énergie de 3,5 milliards de dollars. Et il a dit que tout le gaz acheminé à partir du 1er juin devra être réglé comptant à l'avance. La Russie fournit environ 30% des besoins en gaz de l'Europe occidentale, dont la moitié environ passe par l'Ukraine. D'autre part, les séparatistes pro-russes dans les régions orientales de l'Ukraine, Donetsk et Luhansk, disent qu'ils vont organiser les référendums sur l'indépendance, en dépit des appels du président russe Vladimir Poutine de reporter les votes.
Le chef de l'agence onusienne qui supervise la destruction des armes chimiques de la Syrie a dit qu'il reste un faible pourcentage d'armes à détruire dans une zone dangereuse et inaccessible. Sigrid Kaag a déclaré aux journalistes, après une présentation au Conseil de sécurité, qu'il ne reste plus que 16 barils pour que 100% des stocks de la Syrie soient détruits. Mais des problèmes de sécurité empêchent l'accès à cette zone et cet accès est essentiel pour garantir à la Syrie le respect de la date limite du 30 juin pour se débarrasser de toutes ces armes chimiques. Par ailleurs, le chef de l'opposition syrienne, Ahmad Jarbeh, a déclaré hier que ses entretiens à Washington avec le secrétaire d'État John Kerry et d'autres hauts responsables porteront leurs fruits pour le peuple syrien. Les États-Unis ont reconnu cette semaine la coalition nationale de Jarbeh comme mission diplomatique étrangère. M. Kerry a déclaré que cette coalition est un groupe de l'opposition modérée qui s'est engagé à protéger les droits de tous les Syriens.
Les avocats pakistanais sont descendus dans la rue hier pour protester contre le meurtre d'un de leurs confrères qui défendait un professeur d'université accusé de blasphème. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Maître Rachid Rehman a été abattu dans la nuit de mercredi dans la ville méridionale de Multan. Il défendait Junaid Hafiz, un professeur d'université accusé l'année dernière par des étudiants radicaux de propos blasphématoires contre le prophète Mohammed. Emprisonné, Hafiz n'avait pas pu trouver d'avocat jusqu'au mois de février lorsque Maître Rehman a accepté de le représenter. Selon Zohra Youssouf, présidente de la Commission pakistanaise des droits humains, une ONG indépendante, l'avocat a commencé à recevoir des menaces de mort dès la première audience. Nul n'ose défendre les personnes accusées de blasphème au Pakistan, a dit Madame Youssouf, qui a appelé à l'arrestation de ceux qui ont menacé Maître Rehman. En 2011, un gouverneur de province et un ministre fédéral chrétien ont été tués dans deux incidents séparés pour avoir critiqué les lois pakistanaises contre le blasphème.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique en direct à Washington. Avec vous, Nathalie Barge. Au Nigeria, des femmes se disent fières du soutien de la première dame des États-Unis, Michelle Obama, ou près de nombreuses collégiennes enlevées par Boko Haram en avril dernier. Mais certains analystes craignent que l'implication américaine ne complique les efforts en vue de secourir les jeunes filles. Issa Napon nous en dit davantage.
Hors d'une salle de conférence bondée, Aouna Ali, sourire aux lèvres, manipule son téléphone portable. L'appareil affiche une photo de Michelle Obama brandissant une affiche marquée « Rendez-nous nos filles ». La journaliste et mère de famille fond en larmes et explique pourquoi.
It's just wonderful, Michelle doing it, you know. Standing in the White House.
C'est tout simplement merveilleux que Michelle le fasse à la Maison Blanche. C'est tout simplement ahurissant. Malgré l'horreur déjà vécue, avec les milliers d'assassinats perpétrés par Boko Haram ces cinq dernières années, le kidnapping des collégiennes constitue un choc pour le Nigeria. Les femmes ont organisé des manifestations à travers tout le pays, rejointes par des activistes en ligne via le lien Twitter « Rendez-nous nos filles ». Les Nigérians n'ont jamais été aussi décidés, toujours selon Aouna Ali, pour crier leurs besoins de sécurité. Le tweet de Madame Obama prouve qu'ils ont finalement été entendus.
We now have this feeling that we're not alone in this fight.
Nous avons maintenant le sentiment de ne pas être seuls dans cette bataille. Les femmes ont maintenant une voix et notre voix a été entendue, pas uniquement au Nigeria, mais dans le monde entier, se réjouit Aouna Ali. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Chine ont offert leur assistance pour retrouver ces filles, une offre acceptée par le Nigeria. Cependant, certains spécialistes des questions sécuritaires craignent que l'implication étrangère ne fasse plus de mal que de bien. Si jamais il y a libération des collégiennes, ce serait seulement grâce à l'aide des communautés locales. Sans forces occidentales, Martel Ad Ogundeyin, responsable de ProForce, une compagnie spécialisée dans la construction de véhicules blindés et d'équipements militaires.
We have to be very, very careful. This is a typical Nigerian situation.
Nous devons faire très très attention. Ceci est une situation typique au Nigeria. Et s'il y a escalade, oui, ils pourront retrouver les filles, mais toutes mortes. Boko Haram signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Et le leader du groupe Aboubakar Shekau menace régulièrement de mort tout Nigérian qui s'associe à l'Occident.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Crise institutionnelle et politique au Niger où s'opère un blocage au Parlement depuis 3 semaines. Les députés de la majorité ne veulent plus de Ama Amadou comme président de l'institution. Alors que le bureau de l'Assemblée doit être renouvelé, il refuse d'élire 2 candidats présentés par l'opposition. Plus de détails sur cet imbroglio politique avec Abdulrazak Idrissa.
Décidé à débarquer le président de l'Assemblée nationale de son poste depuis que celui-ci et son parti ont quitté la mouvance présidentielle, les parlementaires de la majorité, devant le blocage de leur projet de modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale afin d'y inclure la procédure de destitution du président de l'institution, blocage dû à leur refus d'élire 2 membres du bureau de l'institution qui sont des députés de l'opposition, les parlementaires de la majorité ont trouvé une nouvelle formule. Demander à la Cour constitutionnelle de constater la violation de la Constitution par Ama Amadou.
Considérant que le président de l'Assemblée nationale ne saurait utiliser sa fonction à des fins étrangères, à sa mission et au but pour lesquels ses attributions lui sont conférées, considérant la situation d'abus de pouvoir consistant pour le président de l'Assemblée nationale à utiliser sa fonction comme moyen de créer et d'entretenir un blocage persistant et délibéré de l'institution. Considérant que l'objectif inavoué de toutes ces manœuvres du président de l'Assemblée nationale est d'arriver à un pourrissement de la situation sociopolitique propice selon lui, à une déstabilisation généralisée des institutions de la République. Nous, députés auteurs de la présente déclaration, décidons de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle constate que le député Hama Amadou a violé les articles 89, 127, 134 de la Constitution et qu'à ce titre, il ne saurait continuer à occuper impunément le fauteuil de président de l'Assemblée nationale.
Pour Hama Amadou, même cette trouvaille des députés de la majorité ne passera pas, la Cour constitutionnelle n'a pas la prérogative de le destituer. Seul le reste, dit-il, la manière forte, puisqu'il n'entend pas démissionner.
Je sais que par la Cour, on ne peut pas me destituer. Vous m'avez enlevé ma sécurité. Vous m'avez enlevé mon garde-corps. Donc je n'ai aucune défense. Prenez vos bazookas, vos fusils. Ça, vous pouvez le faire puisque vous avez ça. Je m'adresse aux députés qui ont fait une déclaration contre moi. Et cette déclaration contre moi me dit clairement que pour vous, je ne suis plus votre président. Et par conséquent, je vous dis, écrivez à la Cour pour qu'on vous donne le droit de me destituer sans respecter les procédures prévues par la Constitution. C'est tout. Mais je ne vais pas démissionner.
La solution pour désamorcer cette crise est entre les mains du président de la République, la prérogative constitutionnelle qu'il a de dissoudre le Parlement. Mais selon beaucoup d'analystes, ce serait suicidaire pour lui. Il lui sera en effet difficile de retrouver une majorité au Parlement après de nouvelles élections législatives. Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour La Voix de l'Amérique.
Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar doivent entamer aujourd'hui à Addis Abeba des pourparlers directs en vue de mettre un terme à 5 mois de conflit dans leur pays. Timothée Donangmaï.
Les deux hommes ont accepté le principe du face-à-face suite à la visite à Djouba du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. C'est un bon signe qu'ils aient convenu de se parler, estime Goy Joyul, porte-parole de la délégation rebelle.
And we are very glad that in the next few days our principals, you know, Dr. Riek and Salva Kiir.
Et nous sommes très heureux qu'au cours des prochains jours, nos leaders, Dr. Riek et Salva Kiir, vont se rencontrer pour donner un coup de pouce ou leur onction au processus de paix d'Addis Abeba. Nous aimerions aussi qu'ils aient une feuille de route sur la manière de procéder, a expliqué le porte-parole de la délégation rebelle. Après l'échec du cessez-le-feu conclu en janvier, les belligérants sud-soudanais ont signé cette semaine une trêve d'un mois. Celle-ci doit permettre aux organisations caritatives de venir en aide aux communautés affectées et aux agriculteurs de procéder aux semis avant l'arrivée des pluies. La décision est intervenue après la prise par les États-Unis de sanctions contre des responsables gouvernementaux et rebelles du Soudan du Sud. Les deux camps semblent s'être mis d'accord sur l'ordre du jour des pourparlers d'Addis Abeba, y compris l'application du cessez-le-feu, la mise sur pied d'un gouvernement intérimaire et une constitution permanente. Toutefois, selon le ministre sud-soudanais de l'information, Michael Makwe, un certain nombre de questions subsistent. Nous n'avons pas encore discuté avec les rebelles. Nous ne nous sommes pas encore entendus sur un gouvernement d'union nationale. Alors, comment peut-on nous dire de discuter au sujet des tâches, de la taille et du calendrier? Il nous est aussi demandé de discuter d'une assemblée nationale intérimaire. Avons-nous convenu d'une période intérimaire ou d'un gouvernement intérimaire? A demandé le ministre sud-soudanais de l'information. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, qui assure la médiation, pense qu'une rencontre de haut niveau entre M. Kiir et Machar aiderait à mettre fin à la violence et au massacre du Soudan du Sud. Le conflit qui a éclaté à la mi-décembre a fait des milliers de morts et plus de 1,3 million de déplacés. La menace de la famine plane sur le pays également parce que les paysans n'ont pas pu ensemencer leurs champs du fait de la violence. Si les semis ne sont pas effectués d'ici la fin mai, il n'y aura rien à récolter cette année.
La Voix de l'Amérique sur Internet, www.lavoixdelamerique.com.
L'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF appellent la communauté internationale à produire plus d'efforts pour fournir de l'eau potable et des systèmes d'assainissement améliorés à plus de 3 milliards d'humains, une demande formulée dans un rapport conjoint publié à Genève, Michel Joseph.
Des progrès importants ont été faits depuis 1990. Presque 2 milliards de gens ont accès à des installations sanitaires améliorées et 2,3 milliards d'autres à de l'eau potable, dont 1,6 milliard avec de l'eau courante à domicile. En revanche, a fait remarquer le docteur Maria Neira, directrice de l'OMS pour la santé publique et l'environnement, plus de 700 millions de personnes manquent toujours de sources d'eau potable et la moitié vit en Afrique subsaharienne. Et plus d'un tiers de la population globale, soit 2,5 milliards de personnes, n'utilisent pas des services d'assainissement améliorés et 1 milliard d'entre elles défèquent encore à l'air libre. C'est ainsi que pour contrer de telles tendances, l'UNICEF a lancé une campagne en Inde en collaboration avec le gouvernement de New Delhi. Des efforts similaires sont faits par les gouvernements de plus de 80 pays. Les mauvaises conditions d'hygiène publique et les eaux contaminées aident à propager des épidémies comme le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l'hépatite A et le typhus. Selon l'OMS et l'UNICEF, rien que la diarrhée tue 842 000 personnes par an. Les disparités entre milieux urbains et ruraux continuent d'exister, mais des progrès ont été faits pour combler le fossé. Enfin, lit-on dans le rapport, 116 pays ont atteint un des objectifs du millénaire pour le développement, c'est-à-dire réduire de moitié le nombre de gens sans eau potable d'ici à 2015. 77 ont réalisé l'objectif de l'accès aux services d'assainissement et 56 ont atteint les deux objectifs.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Nathalie.
Alors en Coupe du Monde, on connaît les 30 présélectionnés du Nigeria.
Oui, Stephen Keshi a publié une liste provisoire de 30 noms, parmi lesquels figurent les 23 qui seront connus le 2 juin prochain pendant la tournée préparatoire des Super Eagles ici même aux États-Unis. Le capitaine Joseph Yobo, bien sûr, Joel Obi et Peter Osage Odemwingie effectuent un retour remarqué dans cette liste après avoir été écarté de la sélection depuis plusieurs mois. 4 joueurs parmi les 30 sont des joueurs locaux.
Football toujours Bagassi, la Fédération anglaise de football adopte de nouvelles mesures.
Oui, le président de la Fédération anglaise de football, Greg Dick, a dévoilé ce jeudi plusieurs propositions afin d'améliorer le niveau de l'équipe nationale. L'une des mesures phares propose de limiter à 2 non-européens le nombre de joueurs par club de Premier League. Dans les divisions inférieures, la Fédération anglaise souhaite que le club ne puisse même pas aligner un seul joueur non-européen. Et puis enfin, Nathalie, en NBA, les demi-finales des play-offs se poursuivent.
Oui, Bagassi, voici les résultats des deux matchs d'hier soir. Miami Heat a battu Brooklyn en Floride par 94-82. Et au second match de la soirée, les Spurs de San Antonio, chez eux au Texas, ont gagné contre les Trail Blazers de Portland par 114-97.
Savez-vous quel est le meilleur attaquant africain ? Dembaba ou Samuel Eto'o. Quant à moi, je crois que Gervinho est meilleur que ces deux-là. Vous pensez que j'ai tort? Eh bien, dites-nous quelle est votre équipe All-Star 2014. Pour cela, sélectionnez un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant sur notre site, lavoixdelamérique.com. Le vote commence le 15 mai.
Merci Bagassi pour la page sportive. Allez, la musique maintenant avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Nathalie, c'est officiel. Mariah Carey sera de retour avec son nouvel album baptisé Me, I'm Mariah, the Elusive Chanteuse. La pochette, vivement critiquée et qui s'inspire d'un dessin de la star quand elle était enfant, a été dévoilée, tout comme la tracklist qui annonce de nombreux guests comme R. Kelly ou Mary J. Blige. On écoute ce matin Mariah dans Love Takes Time.
To read it your own. Now I wonder why I'm feeling down and cold.
Alors le nouvel album de Mariah Carey s'intitulera donc Me I Am Mariah, The Elusive Chanteuse. Il sera disponible le 27 mai prochain, comme le titre, la pochette du disque fait débat, n'est-ce pas Roger ?
Oui, fait débat Nathalie, parce que Mariah Carey s'affiche en maillot de bain, marchant sur l'eau dans un décor paradisiaque et devant un ciel étoilé. Sur les réseaux sociaux, les fans de la diva se demandent, aurait-on perdu l'artiste de héros ?
Mariah Carey loves takes time. Ben oui, ça c'est vrai. Allez, à demain Roger. Merci beaucoup.
Bonne journée Nathalie.
Roger Muntou que vous retrouverez dans le RM Show à 20h, temps universel. Losing my mind. From this hollow in my heart, suddenly I'm so incomplete. Lord, I'm needing you now. Tell me how to stop the rain. Tears are falling down endlessly. Écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. À présent, un rappel des titres avec Anne Albertson.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que les États-Unis feront tout leur possible pour libérer les 276 écolières enlevées par le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Hier à Washington, M. Kerry a indiqué qu'une équipe de conseillers militaires américains est arrivée au Nigeria pour soutenir le gouvernement dans les recherches. Une première mission de la Cour pénale internationale est en Centrafrique dans le cadre d'une enquête préliminaire sur les crimes commis dans ce pays depuis 2012. Le chef rebelle du Soudan du Sud, Riek Machar, est arrivé hier soir à Addis Abeba pour les premiers pourparlers directs avec le président sud-soudanais Salva Kiir depuis que les combats ont éclaté en décembre dernier. Monsieur Kiir est attendu à Addis Abeba dans la journée. Élections en Afrique du Sud selon des résultats partiels portant sur 75% des bureaux de vote. L'ANC menait hier soir avec 62,3% des voix. Et puis la Russie a ordonné à l'Ukraine, dépendante en énergie, de payer à l'avance toutes les futures livraisons de gaz naturel. D'autre part, les séparatistes pro-russes dans les régions orientales de l'Ukraine, Donetsk et Luhansk, disent qu'ils vont organiser des référendums sur l'indépendance en dépit des appels du président russe Vladimir Poutine de reporter les votes.
Merci Anne. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui, présenté par Nathalie Barge et donc Anne Albertson. Merci à toute la rédaction. Chers auditeurs, bonne journée et à très bientôt sur La Voix de l'Amérique.